La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Internet rend-il bête, Siri ? Je fais de mon mieux, Sylvain, m'a répondu le robot qui habite depuis quelques années mon téléphone intelligent. Internet rend-il bête ? Dès 2010, l'éditorialiste américain Nicolas Carr posait cette question, ou plutôt cette question était choisie comme titre de l'édition française de son essai « The Shallows, What is Internet doing to our brains ?»« Ce qu'Internet fait à nos cerveaux ?» C'était la même question, mais reformulée. Que font les médias, entendus au sens le plus large possible, à nos cerveaux depuis au moins le 19e siècle ? Que répond, avec autrement de rigueur, d'enquête et d'érudition, Catherine Hales, l'une des penseuses majeures de la mutation numérique ? Professeure de littérature à Duke University, après une première vie académique de chimiste, cette figure de ce qu'on appelle désormais les humanités numériques est pour la première fois traduite en français. Son livre « How We Think, lire et penser en milieu numérique » paraît ces jours-ci. Et c'est un véritable événement éditorial, je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui à la suite dans les idées. Catherine Hales, bonjour.
Bonjour.
Je le disais, vous êtes professeur de littérature à Duke University. On vous doit un certain nombre de livres qui ont marqué déjà le champ nouveau des humanités numériques. Vous faites partie de ceux venus de différents univers disciplinaires qui se sont sentis en quelque sorte requis par ces transformations de notre monde pour penser, pour essayer de comprendre ce qui était en train de nous arriver. Alors bien sûr, vous avez posé des questions spécifiquement liées à la littérature. Vous vous êtes intéressé à ceux des écrivains qui ont le plus expérimenté, exploré les nouvelles possibilités qu'offre la révolution numérique. Dans votre livre, qui paraît en France ces jours-ci, chez Elug, présenté par Yves Citon, on trouve notamment des lectures très serrées d'un auteur comme Marc Danielewski, dont l'œuvre est traduite en français. Mais on trouve aussi des réponses à des questions beaucoup plus larges et on trouve votre contribution à des mouvements de recherche comme l'archéologie des médias ou l'étude comparée des médias, qui sont de nouvelles façons de réfléchir à ce qui nous arrive. Alors j'aimerais d'abord vous poser une question. J'aimerais vous demander comment, avec le temps, vous continuez de réagir face à toutes les déplorations, à toutes les jérémiades que l'on entend à propos d'Internet qui serait censé nous rendre beaucoup plus bêtes, à propos d'Internet qu'il faudrait interdire des écoles. Moi, je vous avoue que souvent, j'ai tendance à demander aux gens qui disent ça s'ils sont pour ou contre la roue, pour ou contre l'électricité. Mais je ne sais pas comment vous vous en sortez, Catherine Hales.
Well, thank you for the question.
Mais tout d'abord, merci pour cette question. Je crois totalement à notre engagement, que notre engagement avec les médias numériques ont des conséquences, pas seulement économiques, mais aussi neurologiques. Il y a beaucoup de preuves désormais que s'occuper des médias numériques change les structures neurologiques dans le cerveau. Et plus tôt on commence, plus grand est le changement. Donc la question pour moi, ce n'est pas est-ce que ce changement se produit, mais comment faut-il l'évaluer, ce changement ? Et je suis à l'aise avec les livres de Nicolas Kors que vous avez mentionné, et aussi beaucoup d'autres livres de Bernard Stiegler où il avance des arguments du même ordre. Mais de mon point de vue, la situation est complexe. J'avance dans le livre que on voit un changement culturel de l'attention profonde à l'attention plus élevée, à un niveau plus élevé d'attention, mais d'une certaine manière, l'hyperattention, le désir d'avoir des flux d'informations multiples à la fois, de pouvoir passer de l'un à l'autre rapidement, d'avoir un engagement profond avec les médias numériques, a des effets à la fois positifs et négatif. D'une certaine manière, on peut dire que le passage à l'hyperattention rend les cerveaux plus adaptables à des environnements riches en informations. La question pour moi, à ce moment-là, c'est comment préserver la capacité d'attention profonde dans ce changement culturel.
Mais vous êtes d'accord avec le fait de dire qu'il n'est pas raisonnable pour le système éducatif de vouloir simplement tenter de sanctuariser cette attention profonde, de sanctuariser par exemple la pratique de la lecture attentive, de la lecture rapprochée, qu'il est nécessaire désormais aux écoles, aux universités, de prendre en compte ce que vous appelez l'hyperattention, de travailler aussi à d'autres modes de lecture. Évidemment, la lecture machinique, celle que permet la fonction recherche, par exemple, dans un fichier texte, mais aussi la lecture qui se rapproche de cette hyperattention dont vous parliez, une lecture qui est beaucoup plus superficielle à certains égards, mais qui est une pratique dont nous avons besoin pour aujourd'hui aller chercher toutes les informations disponibles dans notre environnement, dans notre milieu numérique, Catherine Hales.
Yes, I think a fact that is not
un fait qui n'est pas suffisamment apprécié, c'est que l'hyperlecture, comme je l'appelle, est aussi une pratique universitaire. Et tous les universitaires savent comment hyperlire pour scanner, d'une certaine manière, des archives extrêmement étendues. Et c'est une des façons de le faire où l'hyperlecture et l'hyperattention ont des effets positifs, même pour des universitaires.
Alors, c'est une pratique ancienne, l'hyperlecture, qui n'a pas attendu que le numérique surgisse pour exister. Voilà bien une posture, une façon de penser typique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'archéologie des médias, qu'on pourrait résumer en une phrase, pas si nouveau que ça, et du coup encore plus intéressant. C'est-à-dire que, au fond, ce qu'on nous présente comme des nouveautés absolues dans le discours marketing qui entoure la commercialisation de beaucoup de nouvelles machines, si l'on regarde bien, n'est pas aussi nouveau que voudraient nous le faire croire les constructeurs. Et pour comprendre véritablement d'où viennent ces technologies et d'où viennent surtout les usages que nous avons de ces technologies, il est souvent nécessaire de faire des va-et-vient entre différentes périodes historiques et maintenant. Et l'un des chapitres majeurs de votre livre, Lire et penser en milieu numérique, revient sur une histoire très très méconnue qui nous permet de comprendre au fond d'où viennent les machines qu'on utilise tous les jours aujourd'hui. Cette période historique, c'est celle qui a duré quand même un siècle, du développement, de la sophistication et de la diffusion très large dans les sociétés occidentales d'une technologie qui est le télégraphe électrique.
So there is in fact a book that calls the telegraph the Victorian Internet.
Télégraphe, l'Internet victorien.
Et
les publicités sur l'avènement du télégraphe électrique prétendent, avancent des choses très très semblables à l'Internet. Ça abolit le temps et l'espace, ça révolutionne les structures culturelles, ça permet de transférer les messages à une vitesse inimaginable, ça réunit des parties du monde qui autrefois mettaient des jours à communiquer et cela peut être fait en moins d'une heure aujourd'hui, disaient ces publicités. Donc il y a un parallèle entre le télégraphe électrique et l'émergence de l'Internet.
Ce qui est formidable avec l'histoire que vous racontez, et c'est pas toujours le cas dans l'archéologie des médias, c'est que, évidemment, ce qui est toujours le cas, c'est qu'il s'agit de bien montrer qu'il n'y a pas jamais de fatalité de la technologie, que la technologie est toujours d'abord et avant tout l'usage de la technologie, que ce qui transforme nos sociétés, ce ne sont pas les technologies directement, mais plutôt ce qu'on décide d'en faire. Il s'agit d'une question politique, d'une question sociale, toujours. Mais ce que vous montrez, vous, c'est à quel point ce sont des raisons économiques, en l'occurrence, des raisons de marché qui ont orienté les conséquences de la technologie. On aurait pu imaginer que ce soit des raisons militaires. D'ailleurs, ça a été le cas pour le télégraphe optique qui a précédé pendant la Révolution française. Mais là, au fond, le code naît avec le télégraphe électrique tout simplement à cause du modèle économique, on dirait aujourd'hui, nécessaire pour faire fonctionner ce télégraphe économique. C'est en fait la nécessité, puisqu'on payait au mot de payer moins cher qui a conduit à utiliser des codes. On aurait pu penser que c'était le secret de la correspondance qui avait conduit les sociétés et les individus utilisant le télégraphe à coder. Pas du tout. On découvre que c'est un modèle économique qui finalement oriente l'effet de la technologie et c'est pas la technologie elle-même.
That's absolutely right.
Vous avez tout à fait raison. À l'origine, lorsque les livres de code télégraphiques ont été développés, ils disaient dans leur préface, de façon typique, que c'était un motif économique et social aussi, autant que pour le secret lui-même. Mais lorsque ces livres ont été publiés, il y avait de moins en moins de secrets dans ces codes, puisque tout le monde pouvait regarder les équivalences des codes dans les livres. Bien que certaines sociétés, certaines entreprises ont tenté de garder leurs livres de code secrets et de les mettre dans des coffres. Mais je suis d'accord avec cela qu'en moins de 20 ans, les impératifs pour l'utilisation des codes étaient principalement économiques. Et les chiffres montrent qu'en 1880, quelque chose comme 99% de tous les télégraphes, tous les télégrammes étaient en code.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il existait, parce qu'on a complètement perdu la mémoire de ça, donc des livres de code qui associaient à un code de quelques lettres, 3 lettres, 5 lettres, non pas seulement un mot, mais une phrase entière. Et que des gens avaient conçu ces livres, organisés comme un thésaurus en fonction des thèmes, pour répertorier les phrases les plus utilisées pour transmettre des télégrammes, par exemple « Êtes-vous bien arrivé ?» ou « Nous sommes bien arrivés ?» ou des choses dans différents registres d'activité économique. Et donc c'était un ensemble de phrases disponibles qu'on utilisait en quelque sorte, ce qui transformait véritablement la manière de communiquer. Ce qui est fondamental dans ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'au fond, on se met à penser une articulation entre la langue naturelle que l'on parle, que ce soit le français, l'anglais ou toutes les autres langues naturelles, et puis cette langue de code. Et c'est cet environnement qui articule langue naturelle et langue de code qui va produire une sorte de matrice, au fond, culturelle, scientifique, depuis laquelle va naître, plus tard, la révolution informatique. Il n'y aurait jamais eu les inventions informatiques sans probablement qu'il y ait ce milieu télégraphique, en quelque sorte, Catherine Hales.
Yes, in my view, code books are
an archaeological and historical treasure. Sont un trésor archéologique et historique parce que ces livres ont préservé et gardé les phrases et les mots qui étaient les plus utilisés dans ces industries individuelles. Et je ne peux pas réfléchir ou penser à un autre archive aussi riche pour nous faire savoir quelles étaient les phrases les plus fréquentes dans les industries, dans les productions de caoutchouc, les banques, le voyage, la vente de tapis, etc. Donc, cette utilisation des livres de code n'a pas seulement été utilisée par les historiens. Et un des problèmes qui a empêché cette utilisation des archives, c'est qu'il n'y avait pas d'outils de base de données de recherche générale pour tous ces livres de code. Donc, avec l'aide de quelques collaborateurs, j'ai créé cette interface sur ma page Internet, dont je donne l'adresse, qui vous permet de faire une recherche par mot sur 160 livres de code. Et en le mettant en ligne, je me suis dit que ce serait utile aux historiens, alors que ce n'était pas disponible précédemment.
On va mettre la référence de ce site internet sur la page de La Suite dans les idées, sur le site de France Culture. Ce qui est intéressant dans cette démarche d'archéologie des médias, c'est que ça nous permet aussi de prendre conscience de l'historicité d'un certain nombre de questions. En vous lisant, je voyais, vous racontiez la question du privé, du public, la manière dont finalement quelque chose qui était sacré, c'est-à-dire le secret de la correspondance avec des lettres closes et cachetées avec de la cire à l'époque, a été totalement bousculé par cette invention du télégraphe, puisque des gens qui venaient au bureau du télégraphe avec leurs lettres cachetées, voyaient avec effroi l'employé des télégraphes ouvrir leurs lettres pour évidemment nécessairement coder. Et donc l'opérateur, ce qu'on appelle les tuyaux aujourd'hui, où les opérateurs avaient un accès direct aux correspondances. Donc on voit bien que les débats qu'on a aujourd'hui sur la transparence, sur le caractère privé de la correspondance, est loin d'être nouveau et est loin d'être linéaire aussi, Catherine Hers.
There is an anecdote about an English lady coming to the
telegraph qui arrive au bureau du télégraphe avec une lettre cachetée dans une enveloppe. Elle le donne à l'opérateur du télégraphe et quand l'opérateur décachette et dit « Jeune homme, c'est ma correspondance privée ». Et bien entendu, comme vous le dites, c'était obligatoire, absolument obligatoire pour pouvoir transmettre le message inclus dans cette lettre manuscrite. Donc c'est le moment, un des premiers moments, où cette frontière entre public et privé a dû être renégociée. Un autre problème ici qui m'a intéressé, c'est l'effet du télégraphe sur les gens, les émetteurs et les récepteurs en termes de pratique et aussi comment les gens réarrangeaient leurs réseaux neuronaux.
Alors, sans parler aussi des réseaux neuronaux de ces personnes très particulières qui sont les opérateurs des appareils Morse en particulier, qui vont apprendre à coder rapidement avec ce code binaire qu'est le Morse et dont on imagine que les cerveaux ont été littéralement transformés en 40 jours à peu près, parce que c'est le temps qu'il fallait pour former dans l'armée ces opérateurs, par exemple, et que les compétences des uns et des autres étaient variables. Il y a une autre anecdote dans votre livre que je trouve extraordinaire. Vous racontez l'histoire de ce paysan américain qui un jour vient au bureau du télégraphe avec une paire de bottes toutes neuves qu'il veut envoyer à son fils qui se trouve dans une autre ville du pays et il veut télégraphier ses bottes. Et donc face à, j'imagine, à un refus, il les jette par-dessus le fil du télégraphe, il a attaché les lacets et le lendemain il revient, il n'y a plus de bottes. Et donc il est persuadé que ses bottes sont arrivées à destination. Vous racontez cette histoire et moi, en vous lisant, je me suis dit mais au fond... Ça, c'est possible aujourd'hui. Il suffit d'une imprimante 3D. On peut envoyer le fichier d'exécution d'une imprimante 3D pour fabriquer des bottes à distance.
Non seulement les limites entre le public et le privé ont été renégociées, mais aussi les limites entre l'information et la matière, la matérialité. Et l'idée que l'on peut envoyer un télégramme et au bureau récepteur, qu'il dirait exactement ce que le télégramme disait. Il ferait ce que le télégramme disait. Mais ça renversait les gens. Que quelqu'un puisse prendre un télégramme au bureau récepteur et qu'on puisse l'avoir à domicile, c'était une toute nouvelle façon comment les objets matériels pouvaient être transmis d'un endroit à un autre.
Alors voilà, je me suis arrêté parce que j'ai trouvé fascinant sur ce chapitre d'archéologie des médias, sur l'histoire du télégraphe, mais il y a bien d'autres choses. On en a parlé un petit peu au début dans votre livre sur l'attention, sur la question de la lecture, la question de la place des humanités numériques dans les cursus de formation aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de développements passionnants dans votre livre sur le rapport entre les bases de données, ce qu'on appelle aujourd'hui l'exploitation des bases de données, le data mining, et puis la dimension narrative. Je rappelle, vous êtes professeur de littérature et vous avez tous les outils de la théorie littéraire à votre disposition et c'est ces outils que vous faites fonctionner par rapport à des matériaux qui peuvent être des romans. Vous travaillez aussi sur, je le disais en commençant, sur une œuvre de Marc Danielewski, mais aussi sur les livres de Stephen Hall, par exemple, ou ses dispositifs littéraires. Et donc, au fond, vous allez regarder ce qu'il peut y avoir de littéraire dans une base de données.
Well, I think that there are very important differences between narrative and database.
Extrêmement différentes entre les narratifs et les bases de données. Les narratifs sont linéaires. C'est plein de chronologie, aussi complexe cette chronologie peut-elle être, alors que les banques de données ont des entrées qui peuvent être reliées d'une manière ou d'une autre, de toute manière possible. Et les banques de données sont arrivées bien longtemps avant les ordinateurs. Les ordinateurs ont rendu les banques de données, en ont fait une partie essentielle des fonctions économiques et sociales aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que les narratifs semblent être intrinsèques à l'espèce humaine. Toutes les cultures, à tout moment, en tout lieu, ont utilisé les narratifs, les récits. Et maintenant, les humains sont confrontés à une ressource additionnelle par les ordinateurs à côté des narratifs. Et certains théoriciens, comme Manovich, considèrent les narratifs et les banques de données comme des ennemis naturels, selon ces termes. Mais je pense que dans les sociétés contemporaines, ce ne sont pas des ennemis naturels, ce sont des combinaisons synergétiques. Et je pense qu'avec la littérature électronique, beaucoup d'œuvres de littérature qui sont créées actuellement créent des narratifs grâce à des banques de données. Ce n'est plus des ennemis de ce point de vue-là, ce sont des associés dans la compilation d'un travail littéraire.
Alors ce livre qui paraît chez Lug, Lire et penser en milieu numérique, on le voit, est riche d'analyses dans beaucoup de domaines, des domaines qui concernent nos vies quotidiennes, qui nous permettent de comprendre ce qui est en train de nous arriver, mais qui nous rappellent aussi en permanence que ce qui va nous arriver, eh bien, c'est nous qui en sommes largement responsables. Il y a une part importante de responsabilité à souligner. Il y a des marges de manœuvre. Il ne s'agit pas de subir ces technologies. Il s'agit de s'armer de ces technologies, de les maîtriser mieux pour décider de la meilleure manière de les utiliser.
Well, this to me is complex because
pour moi, c'est un aspect très complexe parce qu'il y a des forces économiques immenses qui sont à l'œuvre ici, avec Google, Facebook, etc. Et parfois, ça semble désespéré de tenter de résister à ces forces économiques à l'œuvre. Et une des choses importantes qui peut contribuer à ce débat, parce que beaucoup d'artistes sont intéressés par réorienter cette tendance ou la subvertir.
Donc, ça
accroît le rôle de l'art en ouvrant la voie vers de nouvelles directions et de ne pas être simplement soumis aux desiderata de ces sociétés internationales que j'ai nommées.
Alors, ce livre qui paraît, donc son titre original en anglais, c'était « How we think », « Comment nous pensons ». Mais vous publiez au printemps prochain à Chicago University Press un autre livre dont on imagine que c'est le complément, la suite, et dont le titre est Unthought, impensé. Et vous travaillez, je crois, maintenant sur la cognition non consciente.
Je ne
sais pas s'il y a un mot pour cela en français, mais ce n'est pas la cognition inconsciente, mais c'est la non consciente. Et un de mes moteurs, si vous voulez, pour écrire ce livre, c'est de trouver une façon de parler des êtres humains et des systèmes techniques complexes ensemble. Et pour ce faire, je crois qu'il faut s'éloigner du mot du langage qui est « pensée » et utiliser un autre terme, qui est celui de « cognition ». Pour que les êtres humains, il y a un niveau de processus neuronaux qui n'est pas conscient, inaccessible à la conscience. Et pourtant, cela fonctionne de telle sorte que ça permette à la conscience de fonctionner correctement. Donc il y a quelque chose au sein du reste du cerveau humain qui nous permet de construire un pont vers des systèmes complexes non conscients. Donc l'impensé, ce livre, voudrait créer un cadre au sein duquel on pourrait penser à la cognition humaine et la cognition des machines ensemble.
Et vous êtes nombreux en littérature à vous poser ces questions, puisque je le rappelle, vous avez un parcours très atypique. Vous avez commencé par faire de la chimie et pas juste des études de chimie. Vous avez été chercheuse dans cette discipline et même, je crois, chercheuse au laboratoire de Xerox dans les années fin des années 60, qui était l'un des endroits où s'inventait aussi l'informatique de demain. Fred Turner l'a bien raconté dans son livre sur les sources de l'utopie numérique. Comment aujourd'hui vous vous servez au fond de cette formation scientifique pour penser ensemble, je dirais, ce qui relève de ce qu'on associe traditionnellement au littéraire et ce qui relève du scientifique, pour penser la relation entre les hommes et les machines?
My background in science
Mon historique scientifique a été extrêmement d'importance pour moi parce que ça m'a donné confiance en moi pour pouvoir lire des articles sur les maths, sur les sciences et les comprendre. Et avec cette formation, j'ai acquis la confiance que je pouvais pénétrer un domaine comme la neurologie et que ça me donnait vraiment une idée précise de ce dont il était parlé, quelles étaient les frontières de la recherche, quels étaient les principaux résultats. Et dès le début, tout mon travail était interdisciplinaire. Et je pense que nos sociétés contemporaines exigent des approches interdisciplinaires parce que nous voulons préserver notre héritage littéraire et dans le monde contemporain, il est saturé des technologies de l'information, de neurosciences et d'autres sciences aussi. Eh bien, pour pouvoir intervenir efficacement, il faut pouvoir s'adresser à ces deux champs.
Une dernière question, Catherine Hales. Est-ce que vous pensez justement que cette hyper-attention rendue possible par les machines qui nous entourent peut favoriser l'interdisciplinarité dont vous parlez, peut favoriser cette ambition que nous devons toujours avoir d'être des encyclopédistes au fond?
D'une certaine manière, oui, parce que l'hyperattention est liée à l'hyperlecture. Et comme véritablement le monde de l'informatique devient absolument immense, c'est nécessaire maintenant pour pouvoir faire les recherches et trouver ce qui va vous mener vers ces conclusions interdisciplinaires.
Merci beaucoup, Catherine Hales. Je rappelle le titre du livre qui paraît donc chez Elug ces jours-ci, « Lire et penser en milieu numérique, attention, récit et technogénèse », un livre qui est précédé d'une passionnante préface d'Yves Citon qui travaille aussi sur ces questions d'attention en particulier. On trouve toutes les références bibliographiques sur la page de la suite de Les Idées. On trouve aussi l'adresse du site internet sur lequel vous avez mis en ligne ces livres de code du 19e siècle qui constitue une base de données passionnante pour tous les chercheurs. Merci encore. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donnet, à la technique Bernard Laniel, à la réalisation Jean-Christophe Francis. On retrouve dans quelques instants la conversation scientifique d'Étienne Klein sur l'antenne de France Culture.